Avant, il y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes, tous ces petites salopes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une herbe, plus un animal. Rien. Avec le Xerox 3000, dans ma vigne, il n'y a plus de brindilles. Moi, j'ai fait poser le lino dans la vigne. Pour aller dans la vigne, il faut mettre les patins.
Il a un malaise, le peignoir.
Ça tape, là, d'un coup. J'aime baigner.
Quelle malhonnête!
Vous étiez là?
Bah oui.
Je vous ai pas entendu entrer.
Ah, c'est l'avantage de la moquette, par rapport au poil de vache. On n'entend rien.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement, avec à la technique aujourd'hui Sacha Tropp et Charles Danet, Albert Houck, Jérôme Boulet et Christophe Imbert qui réalisent l'émission. Allez, une petite humeur, 49,3, oui, 49,3. Ben ça pourrait être un score sans appel obtenu sur le gazon en pays d'Ovalie. Eh ben non, c'est juste une petite claque supplémentaire assénée à l'environnement à travers la naissance au forceps de la loi Macron. Tout le monde s'est focalisé sur les aspects emblématiques de la loi, c'est normal, mais sans s'attarder sur le sort réservé au droit de l'environnement qui est pourtant malmené par la prose de Bercy. Bon, avouez que s'il y a quelque chose qui handicape la croissance et l'emploi en France, c'est bien la protection de l'environnement. Mais bien sûr, quand un beau projet porteur d'emploi ne voit pas le jour dans notre pays, c'est toujours la faute aux grenouilles, aux eaux qu'on préfère garder propres et aux coléoptères. C'est notoire, d'où cette volonté ministérielle assurément louable de détricoter le droit de l'environnement. Et le remède miracle s'obtiendra en ayant recours aux ordonnances. Alors là, c'est sûr, présenté comme ça, ça fait un peu une bonne dose de nucléaire le matin et soir, une louche de métaux lourds avant chaque repas. Et au final, pour les tenants d'une protection de l'environnement digne de ce nom, eh bien, la potion risque d'être dure à avaler. Car les ordonnances, ça signifie que, selon le projet porté, le gouvernement pourra décider, sans solliciter l'aval du Parlement, de ramener enquête publique et évaluation environnementale au stade du minimum syndical. Ceci afin d'accélérer la délivrance de l'autorisation de construction ou d'aménagement. Alors en d'autres termes, ces nouvelles règles du jeu du bétonnage pourraient s'avérer assez pratiques pour museler vite fait bien fait les recours déposés par les opposants de tout poil à l'encontre de ces grands chantiers inutiles, entre autres, qui fleurissent ici ou là. Et alors mieux encore, l'article 28 de la loi que vous n'avez pas lu ajoute que les modalités de la concertation et de la participation du public seront fixées en fonction des caractéristiques du projet. Alors là, il faut bien reconnaître, comme l'a souligné l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batteau, que quand on souhaite promouvoir la démocratie participative et que l'on ne tolère même pas le regard des parlementaires, il n'y a plus beaucoup d'illusions à se faire sur le sort réservé à cette notion de démocratie participative. Et pour la députée, il semble clair que le gouvernement ne veut pas gérer par ordonnance que quelques aspects techniques, non, mais bien les principes mêmes du débat public touchant aux questions environnementales. Bref, avis de grand froid sur les associations de défense de l'environnement et autres créations de zones à défendre. Cerise sur le gâteau, la loi rend désormais hautement improbable la démolition des constructions déclarées illégales. De là à dire qu'il y a dans le texte comme une incitation à enfreindre la loi, il y a à moins d'un tout petit parpaing. Bâtisseur de paillotes, c'est le moment ou jamais donc de dénaturer le littoral. Alors bon, l'honnêteté oblige aussi bien sûr à rappeler que vous avez des professionnels de la contestation, du blocage de projets qui font tourner des cabinets d'avocats dans un but uniquement d'indemnisation ou de NIMBY. Et là, on est très loin de la défense de l'environnement. Donc cela, ils existent aussi. Hein. La loi offre bien d'autres points d'ailleurs sur lesquels on pourrait s'arrêter, sur le nucléaire entre autres, on pourrait y revenir, sur la dérogation d'implantation pour des panneaux publicitaires de taille XXL, ça c'est formidable, des panneaux grandeur nature en quelque sorte. Et en somme, on l'aura compris, la loi Macron, c'est une sorte de douce braderie de l'environnement qui dit pas complètement son nom, couillé de côté, tout doit disparaître. Question subsidiaire sous forme d'amendement, est-ce que par hasard, notre environnement doit aussi disparaître?
CO2, mon amour, Denis Chesson, sur France Inter.
Alors dans cette émission, eh bien ça va être le thème, ça va être agriculture folle ou bien agriculture douce. Autrement dit, on va avoir deux exemples. On va avoir une enquête tout à fait intéressante, dont la globalité passera d'ailleurs demain dans Interception, qui est signée Agnès Léraud. Et là, on parlera d'une coopérative qui est assez emblématique sur certains faits qui n'ont pas été tristes. Donc ce sera notre premier thème. Et puis après, je vous emmènerai chez un éleveur qui s'est converti au bio dans le département de la Nièvre, Jean-Paul Loisy et sa femme Nadine, et qui s'en porte plutôt pas mal avec tout ce que l'on peut raconter. Mais auparavant, on va rejoindre, pour rester dans le domaine agricole, en cette ouverture du Salon de l'Agriculture, le directeur scientifique de l'environnement de l'INRA, Jean-François Soussana. Bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Jean-François, racontez-nous aujourd'hui donc agriculture, changement climatique. Peut-être d'abord au niveau mondial, qu'est-ce que cela représente ?
Alors le premier enjeu, c'est les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. C'est un grand secteur et en fait, dans la comptabilité que l'on fait, on a l'agriculture, la forêt et l'usage des sols. Aujourd'hui, c'est 24% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est tout de même moins qu'en 2007 où on était à 31%. Pourquoi ? Parce que la déforestation tropicale a été réduite. On a eu aussi plus de forêts plantées dans les zones tempérées. Et en même temps, on s'est rendu compte que l'empreinte carbone de nos produits alimentaires avait été réduite. Par exemple, depuis les années 60, on a réduit un petit peu l'empreinte carbone de la viande rouge ou encore d'autres produits.
Mais pourtant, d'une manière générale, on va dire Jean-François Soussana, on sait à peu près que la moitié des terres arables dans le monde permettent de nourrir le bétail, d'une manière générale.
Oui, c'est à peu près ça. Et donc, il y a un énorme flot d'aliments qui part vers le bétail, qui doit le convertir avec une efficience qui est tout de même un petit peu modérée. Et c'est l'un des verrous, je dirais, pour l'empreinte carbone, pour le bilan de gaz à effet de serre de l'agriculture mondiale.
Ce qui veut dire que lorsqu'on a un régime carboné assez puissant, on augmente les gaz à effet de serre. C'est un peu mathématique, ça.
Alors, si vous avez une consommation de produits animaux de manière importante, effectivement, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre associées qui sont plutôt plus fortes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une consommation d'herbes par les élevages. Il y a donc une utilisation des prairies. Ces prairies, elles sont capables de stocker du carbone. Et une des clés pour la lutte contre le changement climatique en agriculture, ça va être de restocker du carbone dans la matière organique des sols. Si vous voulez, on a aussi des solutions, et ces solutions, on les situe dans la gestion des sols, on la situe aussi dans la réduction de la fermentation entérique des ruminants, et puis il y a encore la possibilité d'avoir de la bioénergie, donc de substituer des énergies fossiles et de les remplacer par des énergies issues de la biomasse. C'est un potentiel qui est important dans le rapport du GIEC. On devrait même aller à la fin du siècle, probablement vers l'idée de recapturer les émissions de CO2 issues de la combustion de la biomasse.
Je reviens sur ce que vous avez dit. C'est extrêmement important de le rappeler. On l'avait déjà fait dans cette émission, le rôle important de la prairie. Aujourd'hui, on va dire qu'une prairie doit absorber en gros 75% des gaz à effet de serre émis par les bovins. Alors tout va dépendre évidemment du lieu où on va se trouver, de la pédologie, etc. Mais en fait, ça, on l'ignore.
Oui, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien connu parce que c'est difficile à mesurer. C'est quelque chose qu'on a pu montrer au plan scientifique en Europe. En tout cas, les chiffres sont tout à fait concluants. Mais il ne faut pas non plus imaginer qu'on puisse à la fois produire beaucoup sur une prairie et avoir beaucoup de stockage de carbone. En fait, il faut laisser du carbone qui revienne au sol. Donc c'est plutôt dans des élevages qui sont conduits de manière assez modérée ou extensive qu'on aura un retour de carbone suffisant pour le stockage. Par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que si vous partez de sols dégradés, c'est le cas dans une expérience qui a été faite au Portugal, ils avaient des sols très nettement dégradés, ils ont apporté des mélanges de graminées, de légumineuses riches en espèces, avec de la biodiversité, ils ont apporté du phosphore, cela a permis d'augmenter la production, de faire du pâturage, et finalement il y a eu un stockage de carbone considérable dans ces sols. Donc si vous voulez, c'est des expériences en cours au Brésil, c'est des expériences en cours un petit peu partout dans le monde, on se rend compte qu'on peut restocker du carbone dans la matière organique des sols tout en produisant plus. Oui. Et ça, c'est une des clés probablement par rapport à ce problème.
Jean-François Soussana, parlons maintenant de la France. Que représente l'agriculture dans le changement climatique, dans le réchauffement climatique ?
C'est plus que la moyenne européenne, parce que nous sommes un grand pays agricole. Donc nos émissions, elles sont de l'ordre de 20% des émissions totales du pays sont issues de l'agriculture. Alors ça, c'est beaucoup. Et en même temps, il faut rappeler que nous avons un potentiel de réduction qui est considérable, que nous avons chiffré à l'INRA dans une étude qui nous avait été commandée par les ministères en charge de l'agriculture et de l'écologie, à 30 millions de tonnes de CO2 équivalent. Ce potentiel, il est aussi intéressant d'observer qu'environ un tiers est avec un bénéfice net pour les agriculteurs. Il s'agit d'économiser de l'énergie, d'économiser des engrais, d'avoir des légumineuses à la place de ces engrais azotés. Et puis, on a évidemment des mesures qui sont plus coûteuses. Par exemple, si on veut faire de l'agroforesterie, si on veut planter des haies, il faut des investissements, mais c'est sans doute intéressant pour le long terme, aussi pour s'adapter au changement climatique.
Aujourd'hui, on sait qu'il faut à peu près 2 tonnes de pétrole pour fabriquer, grosso modo, 1 tonne de pesticides. Bon, pour faire simple, c'est ça qui consomme peut-être le plus, ce que l'on comprenne bien maintenant dans les différentes alvéoles de l'agriculture.
Disons que la question des pesticides, il y a effectivement un effet sur les gaz à effet de serre, mais c'est tout de même plutôt, si vous voulez, les engrais azotés.
D'accord.
C'est plutôt, par exemple, le soja qui est importé et qui, dans certains cas, implique une déforestation tropicale dans les pays de production. Donc, la question des pesticides intervient, mais elle n'est pas au premier plan. Mmh. Néanmoins, on peut avoir une agroécologie intelligente face au climat. C'est quelque chose qui est mis en œuvre, je dirais, dans certains pays comme en Amérique centrale, où vous vous rendez compte qu'on peut avoir des arbres qui sont introduits dans des parcours. Donc ça fait un microclimat, ça protège les animaux des vagues de chaleur, ça permet aussi un stockage de carbone dans le sol à nouveau, puis dans la biomasse. Donc finalement, vous faites à la fois une réduction des gaz à effet de serre et une adaptation au changement climatique.
Voilà, donc une des nombreuses façons, on va dire, de lutter contre ce monde complètement dément aujourd'hui. Mais il y a donc tout à fait des possibles, et pas mal d'agriculteurs d'ailleurs y sont prêts. Alors après, bah, évidemment, c'est les politiques qui sont derrière, les politiques agricoles, dans quel sens ça va, etc. On va pouvoir y revenir. Je vous propose d'écouter notre première chanson choisie par Thierry Dupin, Julien Doré. On va poursuivre ce voyage en agriculture. Voici Hôtel, Thérèse. Oh, sûrement à 3 étoiles. Oui, c'est Doré, vous êtes bien sur France Inter.
Spin the bush en 58, Hôtel Thérèse. En demi-dieu, faible, invincible sur la falaise. Je veux pas qu'on touche. Je volerai l'écran de ton pur sang, cavalier seul et mis en touche. J'ai pris du poids sur la balance du room service. Je me parle de toi dans l'ascenseur au bois de lys. Je veux pas qu'on touche. Je volerai les reins des enfants rois qui à tes seins pendront leur bouche. Mon cœur te croyait morte, toi qui lui as donné la vie. Comme un loup sur la mer morte, sur le sirène de Colombie. Mon cœur te croyait morte, toi qui lui as donné la vie. Comme un loup sur la mer morte, sur le sirène de Colombie. Spin the bush en 58, Hôtel Thérèse. Que reste-t-il de nos promesses sur la falaise? Je veux pas qu'on touche. Je volerai l'écran de mon pur sang, cavalier seul et mis en touche. Je rends ma foi aux vierges douces de Saint-Supplice. J'entends ta voix dans les eaux troubles et à la Nice. Je veux pas qu'on me touche. Je volerai les reins des enfants rois qui à tes seins pendront leur bouche. Puisque tu pars, oublie-nous. Si je reviens trop tard pour le coup, puisque tu pars. Si je reviens trop tard, mon cœur te croyait morte, toi qui lui as donné la vie. Comme un loup sur la mer morte, sur le sirène de Colombie. Mon cœur te croyait morte, toi qui lui as donné la vie. Comme un loup sur la mer morte, sur le sirène de Colombie.
sirène de Colombie, je ne sais pas quel est leur état de forme. Les loups sur la mer Motte, ça ne va pas très très fort non plus. C'était donc Julien Doré, Hôtel Thérèse. Alors là, tenez dans l'actualité, contexte difficile, on se le sait, hein, dans le domaine de l'agriculture, enfin pas pour tout le monde d'ailleurs. Des mesures là qui viennent de tomber, qui vont dans le sens pro-élevage intensif, et ça ne peut être qu'apprécié par la FNSEA. Donc il faut retenir que les normes ne seront plus aussi strictes à partir de juin prochain, et les élevages pourront s'agrandir plus facilement. C'est-à-dire que jusqu'à 30 000 bestioles, pas de problème, tout va bien. Et puis à partir de 40 000 quand même, là il y aura une procédure qui sera un petit peu plus longue. On écoute Xavier Belin, qui est le président de la FNSEA.
Il y a 20 ans, on importait à peu près 6% de nos besoins en consommation de poulet en France. Aujourd'hui, on en importe 40%. Donc il y a bien une part de reconquête du marché intérieur à faire. On a des filières sur lesquelles on pourrait peut-être redevenir plus offensif à l'exportation. Il faut pas s'étonner, nous avons des coûts souvent plus chers que la plupart de nos concurrents. 1000 vaches, 2000 vaches, 3000 vaches, c'est monnaie courante sur une partie de l'Allemagne, en Pologne maintenant et dans pas mal de pays.
Alors toujours au micro de Sophia Anastasio de France Culture, inquiétude du côté de France Nature Environnement, Jean-Claude Bévillard.
On ne prend pas en compte tout simplement ce que peut générer comme problème sur l'environnement de l'élevage, et on ne prend pas en compte non plus la vie des habitants qui sont dans les zones de ces élevages. Cette agriculture industrialisée représente un vrai risque sur la qualité des eaux. Il présente aussi des conditions de vie pour les animaux qui ne correspondent pas à ce qu'on peut attendre d'un élevage moderne.
Donc course à l'industrialisation des exploitations qui s'accélère contre toute considération écologique, c'est ce que nous dit donc Jean-Claude Bivière de France Nature Environnement. Très récemment d'ailleurs aussi, la Confédération Paysanne cette semaine a sorti une carte intéressante de 28 projets en cours de fermes gigantesques, hein, comme en Allemagne, avec plein d'animaux. Alors je pense que vous connaissez Martine à la ferme. Ah bah oui, ça vous dit, vous savez, Martine à l'école, Martine à la ferme, etc. Donc c'est très mignon, Martine à la ferme, il y a des petits porcelets, il y avait des cerisiers, il y avait une chument, il y avait une voiture qui était tirée par le cheval. Bon bah là, il faut le réécrire, le Martine, ça va être Martine à la ferme, aux 1000 vaches. Ah, alors là, on va débuter, oui, on entend les goélands, on va aller du côté de la mer. On va aller du côté de la mer parce que ça va être une enquête signée Inès Lérault, que vous pourrez entendre aussi avec d'autres éléments demain dans Interception, dimanche matin. Le thème, ça va s'appeler « Une histoire de grains pourris », donc émission de Lionel Thompson et Pascal Derieux, et vous allez comprendre pourquoi. On est à Plouisy, on est près de Guingamp, donc on est entre Morlaix et Saint-Brieuc, et là, il faut imaginer devant vous des silos qui sont énormes. On est face à l'usine qui s'appelle Nutrea. Et Nutrea, c'est une filiale d'une immense coopérative agricole bretonne, hein, qui s'appelle Triscalia. C'est une des plus grosses de France. Ah oui, on entend du cochon, c'est normal. Ça, c'est normal. Et Nutrea transforme donc les céréales en aliments, donc pour du bétail, qu'elle vend aux éleveurs. Et puis, entre 2008 et 2010, il y a eu un scandale quand même important qui a éclaté. Pour des raisons d'économie d'énergie, Nutrea décide de couper la ventilation qui a lieu donc la nuit. Dans ces silos. Et au bout de 6 mois, les stocks de céréales destinés notamment à l'alimentation de milliers de porcs se sont mis à pourrir. Et donc on a arrosé les 20 000 tonnes de stocks de céréales massivement, en surdosage, avec des insecticides jusqu'à 30 fois la dose autorisée, dont un en particulier qui était interdit. Et puis après, c'est devenu une pratique d'entreprise, hein. C'était pas un accident, on va dire, ponctuel. Alors 18 salariés ont consulté la médecine du travail, donc suite à ces différents symptômes. 4 ont porté plainte, plus une autre personne que l'on donc on entendra. Et puis le 20 octobre dernier, donc Nutrea et Triscalia, la coopérative, renoncent à faire appel et respectent les décisions de justice du 11 septembre du tribunal des affaires de la sécurité sociale à Saint-Brieuc, qui a reconnu une faute inexcusable de l'employeur pour intoxication de 2 de ses anciens salariés. Donc on va voir, alors c'est pas rien, hein, c'est une maladie quand même aussi derrière qui est invalidante, hein, hypersensibilité aux produits toxiques. Et on va donc entendre au micro de Inès Lérault, Laurent Guillou, qui est donc un ancien salarié de Nutrea.
Un soir, j'avais pris mon bloc de travail pour laver, je le pose tout près d'un bassin chez moi à poissons. Et le lendemain, dans la nuit, j'avais oublié mon bleu tout près du bassin à poissons. Et sans que le bleu n'ait eu contact avec l'eau, il était à peu près à 50 cm de l'eau, tous mes poissons étaient morts dans le bassin. J'avais une trentaine de poissons, ben, je les ai tous perdus. Et du coup, j'ai dit, oh là, ça ne peut plus continuer ce bordel dans cette entreprise, personne ne nous écoute. Et nous, on est en train de laisser notre peau dans cette entreprise. Tout était contaminé, puisque même le gamin chez moi, quand il regardait la télé sur mes genoux, ben, il avait commencé à réagir, il avait des plaques rougeâtres et tout ça sur le visage. C'est là que j'ai dit, il faut que ça s'arrête, il y a un gros problème dans cette coopérative.
Un autre éleveur a été lui aussi brûlé en ouvrant donc un sac d'aliments. Il a eu droit à des piqûres de cortisone dans tous les sens. Et il nous raconte aussi pourquoi aujourd'hui bah, il en a assez de son métier.
Bah pourquoi ? Parce que 35 ou 37 ans de travail là-dedans, payé à coups de pied dans le cul, je vends mes cochons moins cher aujourd'hui que quand j'ai commencé. Je cherchais l'erreur.
Vous les vendiez combien quand vous avez commencé ?
Les bonnes années, on tirait du 12-13 francs du kilo.
Et maintenant, vous êtes à combien ?
Là, aujourd'hui, le prix du marché, il est à 1,18€ ou chose comme ça, 1,19€. Bon, faites de la conversion, puis vous allez voir.
Vous êtes presque à la moitié moins que quand vous avez commencé le kilo ?
Ouais, enfin, bon, largement en dessous, on n'a qu'à faire la conversion.
12-13 francs le kilo, c'est presque 2€ le kilo quand vous avez commencé.
Ah, quasiment, oui. Oui. Ah, oui. Non, mais c'est pour ça qu'à cette époque-là, on vivait avec... Un cochon, ça vous produisait, une truie, ça vous produisait une petite vingtaine de porcs charcutiers à vendre dans l'année, et puis tout le monde vivait très bien avec ça. Aujourd'hui, on vous demande d'en vendre 28, 30, 32.
Et, par truie ?
Bah oui ! Bah, on vous dit, faites des gains de productivité. Bah, pendant toute ma carrière, j'ai entendu que ça. Moi, allez, faites des gains de productivité, ça va un peu. Mais au bout d'un moment, vous atteignez les limites physiologiques de l'animal. Après, vous vous étonnez que ça commence à déconner, mais bon, c'est... Mais on vit dans un monde de dingue, de toute façon, là.
Mais qui vous dit d'augmenter vos gains de productivité ?
Qui ? Bah, nous-mêmes, si vous... on est obligés.
À cause des prix bas ?
Bah, à cause des prix bas, tout, parce que de toute façon, vous, d'un côté, vous avez des prix de plus en plus bas, de l'autre côté, vous avez des charges de plus en plus élevées. Bah, vous compensez par des gains de productivité, ça va, la compétitivité, tout ça, là, ça c'est les discours qu'on vous sert, dans lesquels vous accrochez quand vous avez 25 ans, 30 ans, 40 ans. Mais là, où je suis, ras-le-bol, quoi.
Et comment vous faites pour augmenter la productivité d'une truie ?
Bah, au début, donc, c'est assez simple. L'animal, il a toujours un potentiel de gain. C'est comme un sportif. Quand vous commencez à faire du sport, vous allez courir de plus en plus vite, naturellement, parce que jusqu'à atteindre vos limites physiologiques. Après, si vous voulez continuer à faire des gains de performance, vous allez commencer à vous doper. Bon, bah, en élevage, c'est pareil, quoi. Puis aujourd'hui, on vous dit encore, il faut aller plus loin, mais plus loin jusqu'où là ? Vous allez greffer quoi ? Des tétines sur le dos de la truie ou, enfin, c'est des aberrations. Mais dans les autres élevages, c'est pareil, quoi.
Voilà, on est dans la réalité, dans la misère et dans la douleur quand même d'une certaine partie hein, de cette paysannerie aujourd'hui, donc d'éleveurs poussés au productivisme et personne n'y trouve véritablement son compte. Et donc on poursuit grâce à cette enquête d'Ignace Leroux, donc une autre rencontre avec une femme, Edith Le Goffic, qui a perdu elle aussi son mari. Elle nous raconte pourquoi.
Ben, le soir du 21 mars, donc c'est le jour donc, où mon mari est décédé à l'entreprise.
À l'entreprise
Nutrea, Triscalia, donc basée à Plouisy.
Et il s'est donné la mort sur son lieu de travail.
Oui, sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail, dans le bâtiment où il travaillait, et avec son outil de travail.
Il avait quel âge, Guénaël ?
41 ans.
Qu'est-ce qu'il faisait exactement, votre mari, à Nutrea ?
Il livrait des produits médicamenteux, donc porcelets, premier âge. Donc voilà le courrier qui m'a été remis par l'inspecteur du travail.
Donc il dit que certains salariés s'accordent à dire que le poste occupé par votre mari était l'un des plus difficiles de l'usine,
oui.
En termes d'horaire et de contraintes physiques. Il apparaît comme quelqu'un de consciencieux dans son travail. J'ai pu constater que l'équipement de travail et le local dans lequel il était situé, utilisé pour amener les produits médicamenteux des big bags vers les camions de transport, n'était pas muni d'une aspiration. Une infraction au code du travail a donc été commise.
Il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de masque. Donc, en fin de compte, c'est vrai que cet aliment-là, il le touchait à main nue. Et il respirait la poussière.
Nous, en fait, on est peu de choses, en fait, pour ces gens-là, quoi.
Lorsqu'on a dit qu'à Saint-Brieuc, on s'est rendu compte que
Et lors de l'expertise, en fait, c'est à l'amiable, en fait, quoi. Et du coup, le médecin, en fait, en regardant dans les papiers, il a été vraiment interpellé que Guénal a été trouvé donc sur son lieu de travail vers 19h30, selon ce qui est écrit dans le certificat de décès. Et le premier appel a été donné à 20h01 pour les secours. Donc il y a des choses qui ne sont peut-être pas très claires, on ne sait pas.
Pour le certificat de décès aussi, il avait fallu que je me batte aussi pour l'avoir, puisque personne, enfin j'avais même été à l'entreprise et personne ne pouvait me dire qui était le médecin qui était venu sur place le jour du décès de Gwenaëlle.
Très difficile hein, d'avoir des informations, on imagine bien qu'il y a quand même une chape du silence. Aujourd'hui, je tiens à préciser que vous avez une partie encore de ces stocks qui est ventilée, mais on a toujours recours à ces insecticides. Plus, bien sûr, à celui qui avait été dénoncé parce que déjà à l'époque, on ne pouvait plus s'en servir pour cause de dangerosité, mais quand même, on poursuit dans ce domaine. On va écouter maintenant Thierry Thomas, qui est un éleveur de porc, qui est juste en face de Nutrea, donc éleveur classique, et... C'est intéressant aussi d'avoir ce témoignage parce que ça donne la réalité quand même de ce monde paysan. Et une fois de plus, il ne s'agit pas de fustiger une seconde ces gens-là qui font un boulot comme ils peuvent les uns et les autres. Et on comprend bien que lorsque vous êtes aussi entre les mains d'une coopérative, vous êtes à la fois client et fournisseur. Hein, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Et donc, il nous raconte, Thierry Thomas, l'histoire de sa ferme.
Dans ce village ici, dans ce petit village, il y avait 4 fermes. Pas quand on y est arrivé, mais à un moment, dans les années 50-60, il y avait 4 fermes. Je suis la seule aujourd'hui, on est tout seul là. C'est que ça a fait le ménage hein, dans le milieu agricole. Ça ne fait pas de bruit, il y a eu un véritable plan social là. Dans les années 70, il y avait 150 000 exploitations sur la Bretagne, il en reste 35 000 aujourd'hui. Vous voyez, ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de manifestation, c'est juste que les gens ne sont pas remplacés.
En 40 ans, le tiers des exploitations a disparu.
Oui. Quand on a démarré cette activité-là, on l'a démarré avec un besoin, une envie, et puis d'ailleurs une nécessité financière d'être intensif. On a 90 truies, et on produit plus de 2000 porcs par an. Et ça, c'est devenu une petite boutique en Bretagne. Il faut en être conscient.
La moyenne, c'est quoi ?
180 à 200 truies, le double. On est noyé dans un contexte ici qui n'est pas un contexte neutre. On n'est pas dans le sud-ouest de la France ou dans les Alpes de Haute-Provence. On est ici en Bretagne, terre intensive, de production intensive. Et que la culture, elle est là, elle est ancrée, elle est solide. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de résistance au changement, qui pourtant est devenu nécessaire.
Et vous avez adhéré dès le début à Copagri, qui est l'ancien nom de Triskalia ? Ou bien vous adhériez à d'autres coopératives agricoles ?
Non, c'est plus compliqué que ça. De la même manière que les exploitations ont diminué... Les coopératives se sont phagocytées les unes les autres. Les coopératives ont énormément grossi. Elles se sont d'ailleurs de plus en plus éloignées des paysans. Et leur souci de défendre l'intérêt des paysans est passé au second plan avec d'abord un souci de gestion de l'outil. Voilà. Il y a 30 ans, dans les assemblées de coopératives agricoles, il y avait du débat. Il y avait des avis qui s'exprimaient. Puis un jour, sans doute, les dirigeants en ont eu un peu marre de ça, et ils ont demandé aux gens qui avaient des questions à poser en Assemblée Générale de les poser par écrit 3 semaines avant l'Assemblée Générale.
Donc il n'y a plus de débat direct avec les dirigeants des coopératives.
Il n'y a plus de débat direct, parce que les gens qui avaient envie de débattre n'y vont plus, et je suis le premier, je ne vais plus aux Assemblées Générales de coopératives, parce qu'on n'a plus les conditions d'un débat normal, simple, pas compliqué, d'interpeller les dirigeants pour leur demander ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et d'exprimer des avis directement. Aujourd'hui, il faut passer par la case écriture 3 semaines avant l'Assemblée Générale, c'est insupportable. Aujourd'hui, les coopératives sont des outils qui sont tellement lourds, dont la gestion financière est énorme, le poids financier est énorme. Le montage sociétaire dans les coopératives, c'est une véritable toile d'araignée.
Vous êtes aujourd'hui adhérent de la coopérative Triskalia, Thierry Thomas ?
Depuis 3 ans, je ne travaille plus du tout avec Triskalia. Triskalia ayant décidé de fermer le petit magasin d'approvisionnement qui nous était fort utile ici à côté, en nous invitant à traverser la ville de Guingamp pour aller de l'autre côté chercher... Le joint la pince ou quand on a un besoin immédiat. Et moi, j'ai considéré qu'à ce moment-là, si le service de proximité ne comptait pas pour cette coopérative, je n'avais aucune raison de travailler avec eux. Et donc, de façon assez incroyable, je me retrouve en fin de carrière à travailler avec un privé pour mes approvisionnements, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour lui, à son compte. Et donc d'avoir abandonné le fonctionnement coopératif auquel je ne crois plus du tout. Voilà. Je ne crois pas du tout que le système coopératif aujourd'hui défend l'intérêt des agriculteurs. Ce que je sais, c'est que à aucun moment, les dirigeants qui ont été informés, ils savaient qu'ils ont, un, utilisé des produits interdits, deux, que parfois ils l'ont utilisé à des doses qui n'avaient rien à voir avec les doses autorisées, plusieurs dizaines de fois les doses autorisées, jamais, à aucun moment, les responsables de cette entreprise ne sont venus nous poser la question ou ne sont venus nous informer en nous disant « on a eu un problème, on a eu un souci, ça serait peut-être bien qu'on vérifie si la qualité de vos aliments est conforme ». Jamais ils n'ont fait ça. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on a affaire à des gens dans l'agroalimentaire qui ne tirent aucune conclusion, jamais, de tous les scandales sanitaires qui ont lieu au fil du temps. Jamais ils n'en tirent des conclusions. Au contraire, on a un peu l'impression que quand un problème arrive, ils ont envie de mettre le mouchoir dessus et d'essayer de faire le profil bas en espérant que personne ne fasse de vagues avec ça. Et ça, c'est insupportable. Parce que moi, je suis éleveur. On peut raconter ce qu'on veut, on peut juger la manière dont j'élève mes cochons, de la manière dont on veut. Mais moi, en tout cas, j'ai pas du tout envie, à aucun moment, de porter la responsabilité d'avoir empoisonné qui que ce soit avec mes animaux.
Alors dans ce reportage, il ne s'agit pas de faire le procès du système coopératif, hein. C'est un avis, ça ne veut pas dire que tout se passe comme ça, de cette manière-là. Mais là, Thierry Thomas a un avis quand même tout à fait autorisé, donc c'est son ressenti, c'est de la parole que l'on n'entend pas forcément, sauf évidemment chez nous, peut-être sur le service public. Et on va partir maintenant du côté de Lokirec. Alors Lokirec, c'est dans le Finistère, vous voyez le schiste de la région, c'est vrai que c'est très beau, c'est vraiment très très beau. Mais tous ces coins-là sont superbes, vous avez des grandes bande de sable humide et un amoncellement, bah oui, évidemment, de quelques algues vertes. Et là, on va rejoindre Yves-Marie Lelay. Alors, Yves-Marie Lelay, c'est le président de l'association de sauvegarde du Trégor. Et il était en train de vérifier les différents chiffres officiels, à la fois de Chambre d'agriculture, de la FDSEA, sur les emplois et aussi sur les animaux.
Et alors, en Bretagne, c'est intéressant, là, le chiffre à retenir, 57% de la production française.
Sur un territoire relativement petit, quand
oui,
même.
Oui, oui, puisque la Bretagne, si on prend les élevages porcins, la Bretagne, c'est donc, on peut dire, 4-5% de la surface agricole utile de la France. Et là-dessus, ça fait 57% de la production française de cochons. Donc, bien évidemment, on se doute bien que... va bien falloir ensuite mettre les déjections quelque part. Voilà. Le dynamisme breton, c'est pas la faucille et le marteau, c'est la sébille et le marteau.
C'est quoi la sébille ?
La sébille, c'était cette petite coupelle que l'on mettait à la sortie des églises, souvent pour avoir un peu d'argent, la quête. Des aides, des aides, des aides, des aides, des aides. Quand vous avez dû entendre ça, l'agriculture intensive, aujourd'hui, à travers tous ses représentants, dont la FNSEA, bien évidemment, dit « nous avons créé la richesse en Bretagne ». Ils ont créé la richesse en Bretagne. Pour créer cette richesse en Bretagne, ils ont d'abord pompé la richesse des contribuables européens et des contribuables français. Toute cette agriculture qui existe en Bretagne, elle vit sous perfusion, encore aujourd'hui. Mais malgré toutes ces aides-là, aujourd'hui, ça, ils ne peuvent plus, le système ne peut plus. Et on le voit très bien dans le poulet. Regardez Tilly.
Donc une entreprise de poulet intensif.
Intensif à Gardesquin, qui est en crise aujourd'hui. Tilly avait, de mémoire, 25 millions d'euros par an de l'Europe. 25 millions d'euros par an, on divise par le nombre de salariés. Je vais le diviser par 400... Ça fait donc 62 000 euros 500 par salarié. Autrement dit, l'Europe payait plus que les salaires. Bien d'accord. Plus que les salaires, parce que je peux vous dire qu'un salarié de chez Tilly, salaire brut et puis tout ce que paye comme cotisation l'entreprise, ça m'étonnerait que ça coûte 62 500 euros. Mais même si ça coûte ça, ça veut dire que l'Europe payait les salariés de chez Tilly. Alors c'est pas dur de faire de la richesse, hein, quand justement on est assis sur un matelas d'argent de ce type-là, et on le voit bien, plus de restitution, l'entreprise n'est plus viable. Voilà. Donc le poulet de loué, là, il fonctionne beaucoup mieux et ils n'ont pas ça hein, comme aide. Donc c'est bien la preuve que ce modèle-là, il n'a fonctionné que parce qu'il y a eu de puissantes aides publiques qui ont fait illusion. Et plus, effectivement, la mondialisation s'est accentuée, et plus la concurrence sur les produits bas de gamme s'est multipliée, et moins ce système était tenable. Donc, dès le départ, c'était un mauvais calcul. Donc, M. Gouvenec, vous n'êtes pas le sauveur de l'agriculture bretonne, vous êtes le fossoyeur. En tuant l'agriculture, il a aussi beaucoup pollué. Ce système-là est, par nécessité, polluant.
On va retrouver Thierry Thomas pour terminer donc cette enquête, donc cet éleveur de porc qui se trouve en face de Nutréa. Et on va parler maintenant de l'agriculture, comment il la sent pour demain. Cette agriculture, elle doit être forte en France, c'est indispensable. La résilience même des territoires passera par l'agriculture. Simplement, les sociétés aujourd'hui, les gens ont peut-être aussi leur mot à dire, et évidemment les agriculteurs en particulier, comme Thierry Thomas.
Aujourd'hui, la société attend énormément de ses agriculteurs. Elle attend en tout cas certainement pas qu'elle les empoisonne, ça c'est une certitude. Mais quand nous, on arrive à discuter avec les consommateurs, avec les responsables d'associations de l'environnement, nous, on est prêts au changement. Les paysans en Bretagne, il y a 40 ans, lorsqu'on leur a dit « il faut produire plus, on a besoin de nourrir la population en France », on a besoin d'augmenter la production laitière, on a besoin d'augmenter la production de lait, de blé, de viande, de tout ce que...
Ça, c'était les discours d'Edgar Pisani, ouais. du ministre de l'Agriculture.
Mais les gens, ils l'ont fait. Ils ont fait des efforts, ils ont modifié leurs habitudes, leur façon de faire, ils se sont bousculés un petit peu. Si demain, on dit aux paysans, attendez, voilà, le contrat avec la société, il est clair. On n'attend plus de vous que vous soyez les plus intensifs de la planète, on n'attend pas de vous que vous ayez dans la tête qu'il faut nourrir tout le monde sur Terre. Eh bien, on vous demande d'être plus respectueux de l'environnement, avec des modes de production qui sont en phase avec les attentes de la société. Les gens le feront. Si on leur passe un contrat clair, ils le feront. Les gens sont plutôt de bonne volonté, en général. On a des dirigeants qui sont sur les talons, et qui, eux, n'ont pas envie d'avancer, parce que, souvent, ils ont intérêt à ce que les choses restent en l'état.
Un intérêt financier ?
Bien sûr.
Donc il faudrait un message clair, mais il faudrait aussi des aides financières.
Non, on n'est pas toujours obligé d'avoir des aides de tous les bouts. Il y a un moment, il faut qu'on arrête d'être les miséreux de la planète qui tendront toujours la main. Il y a des aides qui s'appellent les aides de la PAC, la politique agricole commune. Eh bien, on arrête de donner des centaines de milliers d'euros à des agriculteurs individuels, et puis on les répartit un petit peu mieux. Vous savez, avec tout cet argent de la PAC, on pourrait faire beaucoup de choses.
Oui, répartir un petit peu mieux vers les plus petits paysans.
Oui, puis vers des projets qui soient des projets de société, des vrais projets de société, pas des rentes de situation. Aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer, mais elles avancent sous la contrainte. C'est-à-dire que, en fait, comme les responsables de l'agriculture en Bretagne et en France ne veulent pas avancer dans cette direction-là, les choses se font petit à petit par des plaintes qui sont déposées par des associations de consommateurs ou des associations de protection de l'environnement au niveau européen et qui imposent à la France d'avancer là où elle n'a pas forcément envie d'avancer. Et puis on a un pouvoir politique, qu'il soit de droite ou de gauche, qui est très très faible avec le milieu agricole. Ça fait des années et des années que c'est le président de la FNSEA qui coécrit la politique agricole en France avec les ministres successifs. Ça n'a pas changé par contre. On voit bien qu'il y a un écart énorme entre l'attente de la société vis-à-vis de l'environnement et les nécessaires évolutions vers une prise en compte de l'environnement beaucoup plus importante. Et la volonté d'avancer dans ce domaine-là par la profession agricole. Là, il y a des choses à dire. Il y a des expériences à croiser. Moi, je ne me sens pas en déphasage avec une association comme Eaux et Rivières de Bretagne. Et pourtant, j'ai produit des cochons, et pour des cochons qui font du lisier. Mais j'entends très bien leur discours et je trouve qu'ils ont raison de travailler dans une direction-là. c'est l'excédent de fumier, c'est l'excédent d'azote, que ce soit d'origine des cochons, des vaches, des poulets ou de n'importe quoi, qui provoque les algues vertes. Je veux dire, on n'aurait pas 60% de la production porcine, 20% de la production laitière, 40% de la production de volaille sur 5 départements, on n'aurait pas ces problèmes-là. Hein. Et tant qu'on ne sera pas attaqué d'ailleurs à ce problème-là, on traînera les problèmes environnementaux en Bretagne. On aura beau faire tous les plans qu'on veut, on n'aura pas diminué la pression animale sur ce territoire-là, on continuera d'avoir des ennuis et des conséquences sur la qualité de l'eau. Moi, j'ai des petits-enfants. Hein. Moi, pour moi, l'eau, c'est essentiel. Parce que eux en auront besoin, comme moi j'en ai eu besoin, et comme ceux d'avant en ont eu besoin.
Je tiens à préciser que Triskalia Nutrea donc, refuse aujourd'hui de s'exprimer sur cette affaire. Vous retrouverez, donc, grâce à Inès Leroux et donc à Interception, demain à 9h15 sur France Inter, donc une histoire de grains pourris. Là, vous avez entendu des éléments que vous n'entendrez pas demain, mais donc tout ceci, évidemment, tout à fait complémentaire. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, eh ben, on va avoir une autre forme. Là, c'était le côté un peu agriculture folle, vous avez bien compris. Et maintenant, ça va être l'agriculture douce, avec des éleveurs dans le département de la Nièvre qui sont passés au bio. Il ne s'agit pas d'opposer une fois de plus le bio au conventionnel parce qu'on ne s'en sort pas. Mais ce sera très intéressant. France Inter, c'est au de mon amour et Chico Buarque.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece.
Cette fille est différente, nous chantait Chico Buarque. Et la différence, eh ben on aime ça, nous sur France Inter, et aussi vos interventions. Donc vous n'hésitez pas, hein, sur le site franceinter.fr, CO2 mon amour. Là vous pouvez laisser vos messages, vous pouvez absolument intervenir. D'ailleurs aussi, la semaine prochaine, il y aura pas mal de messages au 01 56 40 40 35, émission consacrée aux jeunes. 01 56 40 40 35, je vous le dis. Et je vous dis aussi que vous avez cette semaine le salon Prime Vert, tout ce week-end, c'est à Lyon, donc les rencontres Alter écologiques. Nous allons partir dans le département de la Nièvre. Alors, on va rencontrer Nadine et Jean-Paul Loisy, qui sont donc des éleveurs donc qui se sont convertis au bio. Je vous rejoins dans quelques instants, mais on va d'abord les écouter. Le déclic pour se convertir au bio, au lait bio, qu'est-ce que ça a été?
La conversion, c'est d'abord dans nos têtes, ouais. Avant tout. J'ai changé parce que j'en avais un petit peu assez de dépendre des désherbants, des fongicides, des insecticides. Le premier déclic qu'il y a eu, ça a été un reportage que j'ai vu sur la déforestation de la forêt amazonienne, mmh. Et l'expansion de la culture du soja. Et donc, mon troupeau, on achetait du tourteau de soja pour complémenter le maïs en silage. Et j'ai trouvé que finalement, je participais un peu à cette destruction de cette belle forêt amazonienne qu'est le poumon de la terre, finalement. Et je me suis dit, c'est complètement absurde de faire venir du tourteau de là-bas, qui est de plus en plus OGM. Il y a sûrement autre chose à faire, une autre façon de travailler. La volonté, c'était de devenir autonome au niveau de la
énergétique aussi,
de l'énergie, ouais. Et de l'alimentation du troupeau.
On va donc partir dans cette ferme du Val d'Osseux. Où sommes-nous? Nous sommes dans le Nivernais, on est dans le département de la Nièvre. Le Bazois est juste à côté, on voit les contreforts du Morvan. C'est très très beau, nous sommes à Rouy précisément, chez Nadine et Jean-Paul Loisy. Donc c'est un département qui se bat hein, pas mal pour garder ses emplois là aussi. Et donc c'est une conversion d'un éleveur bio qui fait la transformation de fromage. Donc il est certifié depuis 2012.
Et évidemment, il faut tout convertir, on l'a bien compris. La ferme, ses habitudes, son travail, les bêtes, l'alimentation, ce que l'on a dans la tête, il faut le convertir aussi. Ça, c'est le problème de chacun d'entre nous, d'ailleurs. Donc, c'est un véritable courage. Et on est dans un endroit où vous avez 80 vaches et une centaine d'hectares.
Toute la surface est utilisée pour l'alimentation du troupeau.
Oui.
Donc on a une partie, un tiers à peu près en prairie naturelle, donc qui ne sont jamais retournées.
Oui.
Il y a un tiers qu'on a semé en prairie temporaire multi-espèces. Oui. Donc on associe les légumineuses, le luzerne, trèfle, aux graminées. Et c'est une bonne complémentation puisque les légumineuses ont la capacité de capter l'azote de l'air dans les racines et de les restituer aux graminées qui leur sont associées. Et donc, du coup, tout ça, ça pousse. On a une bonne production fourragère équilibrée. Ouais. Et donc, ça donne une alimentation équilibrée pour les animaux.
Alors, en fait, vous essayez de boucler les cycles, hein, ici. Je vois un grenier de séchage de foin.
Oui, pour produire du lait, il y a beaucoup de voisins, éleveurs laitiers, qui me disaient... Tu ne pourras jamais faire de lait si tu arrêtes le maïs. Et donc, on prouve un peu le contraire parce que le fourrage que l'on récolte, le mélange multi-espèces dont je parlais tout à l'heure, il est récolté donc à partir du printemps, du mois de mai, jusqu'au mois de septembre. On arrive à faire 4 à 5 coupes de fourrage sur la saison.
Oui.
Et donc, ce fourrage, il est ramassé en vrac. Il est entreposé dans un bâtiment sur caillebotis en bois et il y a un ventilateur qui récupère l'air chaud qui est réchauffé par le soleil sous toiture et qui va finir de sécher ce fourrage que l'on donne tout au long de l'année. Voilà, voilà, donc là c'est le
foin. Oh, donc il y a de la pétence là, hein. Voilà. Ils y vont. Hein. Oui. Allez, on leur remet du foin qu'elles n'ont plus sous le naseau. Allez. Voilà.
Quand on était en conventionnel, on faisait beaucoup plus de traitements, d'interventions sur les animaux. Et à chaque fois qu'on venait s'approcher des bêtes, elles avaient plutôt tendance à reculer et à se sauver. Et l'évolution, c'est qu'au bout de quelques années, à force, on a arrêté tous les vaccins. Donc on ne leur fait plus de piqûres comme on faisait avant. Et du coup, elles sont beaucoup plus calmes.
Ah bah, il a fallu quand même plusieurs mois pour arriver effectivement à retrouver un niveau de production qui n'est pas celui que l'on avait. Mais ça, c'est pareil. Dans sa tête, il faut accepter de moins produire et d'avoir...
Moins 20% à peu près en moyenne.
Oui. Mais bon, en face, on a quand même des charges qui n'existent plus ou qui ont fortement baissé, notamment les frais vétérinaires ou les achats d'aliments extérieurs. Donc ça compense largement. Oui. Et quand on voit la santé de nos animaux maintenant, on ne reviendrait pas en arrière.
Vous me disiez en fait que vous aviez pratiquement pour 1 500 € par mois de frais de vétérinaire.
Oui. Oui, parce que le fait d'avoir donné à volonté de l'ensilage de maïs ou de la nourriture faisait que nos vaches étaient gavées et n'arrivaient plus à absorber la quantité d'alimentation, parce qu'une vache est quand même assez gourmande, donc tant qu'on lui met de l'alimentation, elle mange.
Oui.
Donc si elle n'est pas rationnée, elle peut se rendre malade, et c'est ce qui est arrivé. Donc il y avait ce qu'on appelle de l'acidose, donc il y avait aussi des problèmes de pattes, des bêtes boitées. Et du coup, plus on leur donnait à manger, à la limite, et moins elles mettaient à profit ce qu'on leur donnait. Et du coup, c'était presque du gaspillage.
Alors là-dessus, vous avez donc eu cette formation avec un médecin vétérinaire homéopathe. Et donc, vous avez pu observer, c'est-à-dire de nouveau, vous avez repris la main, enfin véritablement sur les bêtes, quoi.
Oui, au fur et à mesure des formations avec le vétérinaire homéopathe, on a retrouvé petit à petit le sens du métier d'éleveur, finalement. Donc l'observation, vraiment s'approcher des bêtes, regarder le comportement. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais on est à peu près comme de temps en temps des gens de la ville, on court. Oui. Même pour notre métier, on court. C'est-à-dire quand on est polyculteur-éleveur, on a des vaches et puis on a aussi soit des cultures, soit des semis à faire. Et selon les saisons, il y a des choses qu'on relâche et qu'on fait moins bien. Et petit à petit, les habitudes se prennent et au bout d'un moment, on a des vaches, mais on ne les voit pas assez ou on ne les voit plus ou on les voit trop rapidement. Et on passe à côté des fois de certains problèmes.
Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis des fois du foin. Elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui leur chient dans les oreilles et aussi dans les yeux.
Me font les vaches font me. Me font les vaches font me.
Donc là, on a une case où on stocke le bois déchiqueté.
Ah
donc
oui. C'est pour vous chauffer, ça.
C'est en 2010, on a décidé d'installer une chaudière à bois déchiqueté qui a remplacé la chaudière à fioul pour chauffer toutes les pièces de la fromagerie, la maison d'habitation et toute l'eau sanitaire. Ouais. Et donc, on a fait un plan de gestion du bois sur la ferme. On fait un peu comme nos grands-parents faisaient, c'est-à-dire qu'on coupe les saules, on va les étêter. On va couper les aulnes, les berges de rivière. On va laisser pousser les haies que l'on broyait annuellement. On les laisse pousser, on sélectionne quelques arbres qui vont se développer davantage pour que dans 10-15 ans, on ait du bois à couper. Et donc, on a de façon durable sur la ferme 150 mètres cubes de plaquettes de bois chaque année.
Alors, comment ça s'est passé quand même d'un point de vue économique? Parce qu'on imagine bien que c'est quand même aussi un mode qui est différent. Il a fallu faire une transition pour passer au bio, donc ça a duré 3 ans. Comment on s'y retrouve là maintenant?
En qualité de vie déjà, parce qu'on retrouve du plaisir à retravailler, à retrouver d'autres conditions de travail beaucoup plus satisfaisantes. Nos animaux sont en bonne santé, donc on est dans un cadre de vie bien meilleur qu'avant. Alors c'est un peu peut-être un pléonasme de dire ça quand on est agriculteur à la campagne et au plein air. On peut changer aussi notre façon de produire.
Oui.
On n'achète pas d'aliments
oui.
à l'extérieur. Du coup, ça nous permet aussi de maîtriser toute la chaîne.
Et je me souviens d'une période où la récolte que l'on vendait dans l'été, elle était déjà consommée d'avance par les engrais, les désherbants que l'on mettait. Tout nous était pratiquement retenu parce qu'il fallait payer les engrais, les herbants qu'il fallait mettre sur les cultures. Quoi. Ça, c'est vraiment un gros changement parce qu'on a l'impression d'avoir remis la main sur notre métier, sur cette façon de travailler nouvelle qui est plus autonome.
Ah mais elle est pratiquement bilingue celle-là. Hein, elle vient des îles de Jersey, c'est ça?
Donc voilà, c'est ça. Les jerseyaises, donc elles sont petites par la taille,
ouais.
mais c'est les plus grandes pour la qualité du lait. Parce qu'elles ont un lait qui est très riche en matière grasse et en matière protéique. Et donc elles se complètent bien avec l'autre race, la Holstein, qui donne plus de lait.
Ah bah oui.
Mais qui est moins riche en matière utile.
Bah c'est pas simplement un paradis fiscal, hein, Jersey, non, c'est un paradis pour le palais.
Voilà.
Ce que l'on entend bien, c'est reprendre en main son destin.
Oui, tout à fait. Redécider, refaire ses choix, bien savoir où on va, et même ne pas avoir peur du regard de l'autre dans le groupe en disant bah, « tiens, là en ce moment j'ai un problème et je n'y arrive pas ». Accepter de dire « je n'y arrive pas ». Et c'est vraiment un échange de pratiques.
Puis il y a aussi le fait de ne plus dépendre, on va dire, de groupes productivistes.
Le fait de vouloir être autonome a fait que, ben voilà, on essaye de produire au maximum son alimentation, donc on ne dépend pas des cours mondiaux d'aliments, notamment de tourteaux. On sait d'où ça vient, on le produit nous-mêmes, donc il y a une totale transparence. Et je pense que c'est ce que recherchent aussi les clients quand ils viennent chercher les produits ici.
Deux exemples donc complètement opposés, vous l'avez bien compris dans cette émission aujourd'hui. Agriculture folle, agriculture douce. Merci à Nadine et Jean-Paul Loisy. Leur site est sur le site de CO2 Mon Amour, la ferme du Val d'Auceux à Rouy, dans la Nièvre. Christophe Imbert, Denis Chessou, on vous souhaite un très bon week-end.